Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip & Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est LA plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip & Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de course, des portraits, des sagas, pour beaucoup disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors avec un Z.com.
Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 114e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 11 avril, il est exactement 10h43 et nous allons revenir avec un peu de recul sur la troisième étape de The Ocean Race, la plus longue de l'histoire de la course du monde en équipage, avec ses 12 750 milles entre le Cap et Itajaí au Brésil. Nos deux invités y ont participé, le premier à la barre de Holcim PRB, deuxième de cette étape et leader du classement général de The Ocean Race, c'est bien sûr Kevin Escoffier qui est rentré chez lui à Lorient. Salut Kevin.
Oui, bonjour. Bah oui, à Lorient, de retour à Lorient. Ça va être court, je retourne à Itajaí fin de semaine, mais ça fait du bien de faire une pause.
La seconde, notre seconde invitée, faisait partie de l'équipage de Biotherm, le plan verdier de Paul Meya. Il s'agit de Sam Davis, qui est elle aussi rentrée à Lorient. Salut Sam.
Salut Axel, salut Tuss. Oui, pareil que Kevin, ça fait du bien de faire une pause.
Bon, avant de vous donner la parole et de revenir sur cette belle étape, un récapitulatif sur cette étape qui aura duré 35 jours pour les premiers, marquée en début d'étape par l'abandon de Guyot Environnement Team Europe et par l'échappée belle de Holcim PRB qui est passée en tête à la porte de Tasmanie où était attribuée la moitié des points de cette étape. On a par la suite assisté à un regroupement général sous la Nouvelle-Zélande avec un match à 4 pendant quasiment toute la traversée du Pacifique et un Cap Horn franchi en tête par Malitia Sea Explorer qui ensuite s'est livré à un beau duel pour la victoire avec Holcim PRB, l'Imoca de Boris Herman finissant par s'imposer le dimanche 2 avril avec quelques heures d'avance sur celui de Kevin. Trois jours plus tard, Eleven South Racing Team a complété le podium devant Biotherm, handicapé en fin d'étape par un problème de foil suite à une collision avec un OVNI. Au classement général, après trois étapes, Holcim PRB est en tête avec 5 points d'avance sur Team Malidia, 6 sur Eleven South Racing Team, 9 sur Biotherm, tandis que Guyot Environnement, Team Europe, ferme la marche avec 2 points. Bon, ben avant de refaire le match de cette troisième étape qui aura été passionnante à suivre, racontez-nous un petit peu tous les deux comment vous avez récupéré, occupé votre temps immédiat après l'arrivée au Brésil. On va commencer par toi, Sam.
Ouais, c'était il y a pas longtemps. Ça fait du bien. Je pense que pendant l'étape pour l'équipage, je me suis dit c'est plutôt cool parce que je suis habituée aux Imocas en solitaire et là je me suis dit c'était un peu moins fatigant. Mais dès que j'ai mis pied à terre, je changeais d'avis et j'étais absolument cramée. J'ai même du mal à tenir debout. Donc le repos était très bienvenu et pas trop tôt. Oui, ça a commencé avec un super burger à 9h du mat le jour de notre arrivée et un bon debrief avec l'équipe technique de Biotherm parce qu'on a amené un bateau qui était un peu fatigué. Ça s'est très vite passé. Ils avaient sorti le bateau le jour même de l'eau, dimater, d'étiller, et le travail à terre a commencé. Et moi, j'ai pu rentrer le lendemain.
D'accord. Donc, tu es finalement rentré très vite en France.
Oui, très vite. En fait, j'ai décalé bah, un jour. Je voulais dormir 2 nuits dans un vrai lit avant passer encore une nuit assis dans un avion. Donc j'ai dormi 2 nuits à Itajaí et puis maintenant à la maison. J'étais contente de retrouver mon fils parce que ça fait quasiment 2 mois d'absence. Donc il gère ça bien, mais j'ai ressenti aussi que c'était temps que maman rentrait aussi pour le côté famille.
Bon, j'imagine que Kevin, pour toi aussi, la famille t'attendait avec impatience. À Lorient, comment c'est, toi, tu as eu quelques jours de repos en plus de par rapport à Sam, parce que tu es arrivé quelques jours avant. Comment s'est passé le retour au Brésil, le retour sur Terre, Kevin?
Ouais, c'est vrai qu'on est, ça reste un planning chargé, hein. Moi, c'est vrai qu'entre l'enchaînement, entre la route du Rhum, les premières étapes, la gestion de projet, ça fait beaucoup de choses. Donc, faut être assez rigoureux, sur la qualité de vie, on va dire. Donc, j'ai passé 2 nuits, pareil, à Itajaí. Pour la communication, pour lancer le chantier technique. Et puis là, le retour en France me permet de me reposer. J'ai effectué quelques tests physiques pour en savoir où était la fatigue, ce qui était plutôt pas trop mal. C'est-à-dire qu'à part forcément de la dette de sommeil, physiquement c'est plutôt bien. C'est vrai que les IMOCA sont très sollicitants en termes d'impact. Par contre, par rapport à ce qu'on pouvait faire sur des Volvo 65, le temps passé sur le pont est plus, on va dire, plus, j'allais dire, plus facile. Mais si, c'est un peu plus facile, c'est-à-dire moins d'impact avec les vagues, on a besoin de moins porter le ciré, il fait moins froid, donc c'est pas la même façon de naviguer. J'ai envie de dire que il y a de la fatigue psychologique, il y a de la fatigue bah, due à la durée, au temps de navigation et à ces projets qui sont très sollicitants. Depuis, on va dire, depuis la décision au mois de juillet de participer à l'Oceania, et c'est l'enchaînement avec la route du Rhum, la gestion de projet, etc. Mais encore une fois, c'était une très belle étape. Mais ça fait du bien de revenir un petit peu en France. J'avais passé 4 jours à la maison depuis mi-octobre, donc ça fait du bien de passer un peu de temps en famille, même si c'est pas que du repos, parce qu'il y a les débriefings performance avec l'équipage, il y a la gestion du chantier à Itajaí, le bateau est en excellent état, donc ça c'est vraiment quelque chose de positif, ça nous permet de travailler sereinement sur les optimisations à faire sur le bateau en vue de la suite de la course, hein, parce qu'encore une fois, on n'a même pas fait la moitié des coefficients de cette course, donc il faut, même si le début s'est bien passé, il faut rester concentré, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais voilà, ça fait du bien de passer un petit peu de temps à la maison, ça change un petit peu de retrouver un lit plutôt que de passer du temps dans les chambres d'hôtel, et ça fait vraiment du bien de voir la famille et les amis.
Et là, après 10 jours, toi, tu es arrivé le 2 avril, t'as l'impression d'avoir récupéré ou tu traînes encore un fond de fatigue?
Oh non, il y a forcément un fond de fatigue. Moi, j'ai déjà eu la chance de participer 2 fois à The Ocean Race, et je sais par expérience qu'on ne revient le départ que l'on prend de chaque étape, on est toujours un petit peu plus fatigué que la précédente. On arrive rarement à récupérer à 100%. Donc là, c'est vrai que j'essaie de faire pas mal de sport parce que ça aide à la récupération. Il faut aussi essayer de repartir bien physiquement et puis bah voilà, bien dormir la nuit, une sieste ou deux. Mais je sais bien que même quand je vais repartir à Itajaí, je serai pas, on va dire, j'aurais pas récupéré à 100%, mais franchement, physiquement, je suis bien, et il restera juste un petit peu de dette de sommeil, mais j'essaye au maximum d'emmagasiner des heures de sommeil.
Bon, bah, très bien. On va refaire le match de cette troisième étape. Refaire un peu, on va revenir un petit peu en arrière et au 26 février. D'abord, peut-être une image un peu globale, Sam. Est-ce qu'on peut parler d'étape d'anthologie pour parler de cette troisième étape? Est-ce que ça a été une étape assez incroyable pour vous tous?
Pour moi, en tout cas, oui. Moi, je dis épique.
Ouais.
C'est peut-être un mot anglais, mais. C'est ça que je suis venue chercher ça. En tout cas, c'est déjà une étape historique parce que c'est le plus long jamais dans l'histoire de la course. Donc, c'est incroyable d'avoir l'opportunité d'y participer. Donc, dès le début ou même avant le début, je savais qu'on partait pour quelque chose d'incroyable. Ça a même parti un peu comme ça, parce qu'on est parti sur un petit parcours de même pas un mille, de trois tours de banane en Inoka avec 40 nœuds le bouée au vent, zéro nœud sur le bouée souvent, donc ou l'inverse, je m'appelle plus, mais c'était dès le départ hyper intense. Et, ouais, j'ai des très beaux souvenirs. C'était un peu compliqué pour nous sur le biotherme parce qu'on a eu du coup on a eu de la casse tout de suite, qu'on était obligé de suspendre notre course pour rentrer, pour réparer, pour pouvoir repartir. Et donc c'était un gros travail d'équipe, parce que du coup là il y avait l'équipe l'équipage de navigants, mais on a re-sollicité l'équipe technique qui avait hyper bien bossé toutes les escales, qui était un peu cramée. Et, donc chapeau à eux, puisqu'ils ont réagi dans un temps record pour pouvoir nous aider à repartir encore à nouveau à midi la première nuit.
Tu peux nous rappeler qu'est-ce qui vous est arrivé au départ?
Donc, on était très bien parti, mais c'était sur la. On avait fait une énorme plantée juste avant le. Je crois que c'était le deuxième tour, juste avant la deuxième bouée du deuxième tour. Et puis, au moment de l'empannage, je ne me rappelle plus exactement comment on avait. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on avait un petit problème parce que. Le fouet ne tient pas en bas, donc on bloque les fouets avec sur les winches. Donc on avait que deux winches pour faire toute la manœuvre, qui rendent les empannages un peu compliqués. Avec un empannage avec 40 nœuds, et on avait du mal à gérer, et la GV elle est voile d'avant, donc la GV elle passait un peu violemment, qui a arraché. Et sur cet empannage, en fait, il y avait un padre, un gizmo, un padre traversant le pont sur le palan de la GV, qui le pas de doigt de la GV à l'arrière, qui a lâché, qui entraînait que la bombe elle a passé plus violemment que prévu, qui a fait que les chariots du Alba ils sont butés dans la butée, qui n'a pas fait buter, qui a lâché, et du coup on a perdu tous les chariots. Tous les billes, et on a cassé un chariot du GV. Donc on avait et la GV et l'Alba en vrac à ce moment-là. Donc on a jugé que c'était mieux de rentrer et réparer ça proprement, vu la longueur de l'étape, de passer quelques heures à quai avec l'équipe technique. C'était plus prudent, et c'était bien le cas, parce que finalement il y avait un peu plus de dégâts qu'on avait vu sur l'eau, et on a eu aussi les locaux qui nous a aidé à trouver des matériaux, parce qu'on avait besoin de remplacer des chariots, donc c'était oui, c'était, il y avait des locaux, les Sud-Africains qui partaient, qui étaient partout dans la voiture à courir dans toutes les chips et tous les chantiers pour les voileries même, pour c'était un dimanche en plus, donc il y avait pas mal de monde qui nous a aidé à trouver du matériel.
Bon, finalement vous êtes resté combien de temps au Cap? Ça a été quelques heures.
C'était quelques heures. En fait, on avait gardé aussi le météo parce que il y avait du vent. Mais après minuit, ce vent-là, il allait mollir très vite, et on risquait d'être pételé sous le cap. Donc, on savait que on s'est mis un deadline de minuit pour repartir, pour pas tomber dans la pétole. Et donc, on savait que jusqu'à minuit, on n'allait pas perdre grand-chose, parce que il y avait ce petit regroupement un peu dans pas longtemps dans un anticyclone, mais on voulait pas être bloqué le deuxième moitié de la nuit avant le cap de Bonne-Espérance. Donc on est, je crois, reparti à minuit.
Kevin, de votre côté, le départ de course plutôt idéal. Hein, assez vite, vos concurrents ont tous des problèmes techniques. Il y a un problème sur le mât de Malizia. Environnement abandonne au bout de deux jours de course, je crois. Sam, comme elle le disait, Biotherme a eu quelques problèmes. ça vous permet de vous échapper. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que comment vous êtes un peu informé de ce qui se passe chez vos concurrents? Et est-ce que vous voyez une opportunité de faire une échappée belle comme ça a été le cas, parce que vous avez compté jusqu'à quasiment 600 000 d'avance au bout de moins d'une semaine?
Oui, alors déjà c'est vrai que le départ il a été épique. Hein. C'est pas souvent qu'en IMOCA on navigue dans ces conditions-là. C'est pas souvent que sur des courses françaises on accepte de faire trois tours dans ce type de vent. Donc on avait déjà vu ça en 2017, je crois, sur le Chenal. C'est exactement les mêmes conditions où on avait eu les mêmes conditions avec un détour où on était sous l'eau et finir tout le monde empétolé avec très peu de surface de toile dans le dévent de Table Mountain. Donc c'est vrai que sur les IMOCA, je pense que on a dû atteindre des 38 ou 39 nœuds nous au reaching à la bouée au vent. Donc ça fait des vitesses très élevées. On a vraiment, au moins l'idée, c'est vraiment d'assurer le coup en termes de manœuvres, de faire des manœuvres propres et de rien casser. On a vu que Eleven Hour a cassé des lattes dans un empannage. On a vu que Biotherm, c'est vrai, je me rappelle de les voir, on était derrière nous, ils prennent un bon départ. Je me rappelle de les voir effectuer se planter à la bouée au vent. Il me semble que c'était la première, je sais plus, ça sera à voir avec Sam, mais il me semble que c'était la première bouée au vent. Je les ai vus effectuer ce gros planté. Donc l'idée, c'était vraiment pour nous de rien casser, de pas faire trop battre les voiles, parce qu'il y avait encore quand même un gros morceau derrière. Et puis ensuite, on a réussi à s'échapper, parce qu'il y avait une grosse dépression qui était en avant de nous, qui traversait l'océan Indien, et l'idée, on a vu tout le monde effectuer des empannages, parce que tout le monde hésitait à entrepasser dans le sud de cette dépression. Ça aurait été beaucoup de vent, beaucoup de mer, et c'est vrai qu'en début d'une étape de pratiquement un demi-tour du monde, aller naviguer dans ces conditions-là avec nos bateaux qui n'avaient jamais été éprouvés pratiquement pour ces conditions-là, c'était prendre un risque. Et on a vu que tout le monde essayait de retarder ce moment-là, ils essayaient de passer par le nord de la dépression, et il y a eu un moment donné où la dépression a été plus rapide que sur les prévisions, que sur les fichiers. C'est vrai qu'on a été les seuls à pouvoir tenir une vitesse qui nous permettait d'accrocher cette dépression, et tout le monde s'est retrouvé dans la dorsale, dans l'anticyclone migrateur qui suivait cette dépression, et tout le monde est resté un petit peu collé là-dedans, alors que nous, on a réussi à accrocher cette dépression. Alors, c'était pas confortable, hein, parce qu'on était en arrière d'une très grosse dépression, avec une mer qui était dégradée aussi par le courant des aiguilles. Bon, il faut savoir que dans l'océan Indien, il y a le courant des aiguilles qui effectue les tourbillons, et ça génère des mers qui sont très désagréables. Et donc, du coup, on a progressé avec cette dépression en essayant, non pas d'aller plus vite qu'elle, parce que je voulais pas solliciter le bateau, mais vraiment juste essayer d'avancer à la même vitesse qu'elle. Et ça nous a permis d'accumuler une avance conséquente, hein, pratiquement, comme tu le disais, pratiquement 600 000. Mais ça nous a pas permis de concrétiser ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu avoir un système météo d'avance qui nous aurait permis de conserver cette avance-là, en partie due à la limite des glaces. C'est-à-dire que la limite des glaces aujourd'hui étant très nord, c'est compliqué d'avoir un système météo d'avance, parce que les dépressions, à un moment donné, soit meurent, soit plongent plus sud, et on ne peut pas rester en avant, on peut très difficilement rester en avant d'elles. Mais voilà, ça nous a permis, dans tous les cas, même si ça ne nous a pas permis de concrétiser jusqu'à l'arrivée, ça nous a permis de passer la Tasmanian Gate, c'est-à-dire la porte de Tasmanie qui permettait de marquer la moitié des coefficients disponibles sur cette étape. Ça nous a permis de passer en tête et d'engranger 5 points d'avance, et aussi derrière de naviguer plus sereinement. Donc voilà, c'était dans tous les cas, ça nous a permis d'engranger 5 points, et c'est quelque chose qui était très intéressant pour la suite de l'étape.
Sam, comment était l'ambiance à bord quand on compte 600 000 de retard, quand on voit Ulsim PRB s'échapper devant? C'est un coup dur? Quel est un peu le mot d'ordre à bord? Est-ce qu'on se dit qu'il faut attaquer pour essayer de revenir? Quelle était un peu l'ambiance sur Biotherm?
Ouais, déjà, Kevin a super bien navigué, et son équipe, donc bravo. Je confirme que les conditions étaient très dures. À ce moment-là, au niveau de l'état de la mer, l'instabilité des conditions, nous, on était plutôt en mode rattrapage, limitation du gap, puisqu'on était parti, je crois que c'était 9 heures après tout le monde. Donc, on est, j'étais aussi partie avec cet objectif du fait que Biotherm, c'est un bateau qui était très jeune, mis à l'eau beaucoup plus tard que les autres. Donc, on n'avait pas tous les systèmes du bateau bien fiabilisés. Donc, on savait que potentiellement, il y avait, on est à la voie des surprises et que la route est très longue. Donc, on était plutôt dans notre propre course avec nos propres objectifs à ce moment-là, plutôt que qu'essayer de tout exploser pour essayer de rattraper au team PRB, qui était quasiment impossible parce qu'ils étaient bien lancés avant nous avec notre retard. Non, c'était une ambiance la route est longue, on doit écouter nos bateaux, le découvrir, découvrir ses réglages, comment naviguer. Je m'appelle dans cette première dépression, on n'arrivait pas à aller vite dessus. On était dans la découverte d'essayer des réglages différents, des réglages des voiles, des foils. On avait une nouvelle voile qu'on n'avait pas encore essayée. À bord, donc on a beaucoup progressé à ce moment-là, et on avait vu aussi que l'avance que Holcim il prenait, que dans très longtemps on risque de tous se retrouver. On avait vu, comme Kevin disait, ils étaient dans le même système météo que nous, donc il n'y avait jamais de pression, ni de stress, ni inquiétude qu'on était. On était loin derrière, et puis on était contents aussi de retrouver les deux autres bateaux, et on avait une chouette régate avec eux. Et finalement, cette première partie, une fois on est reparti de l'anticyclone, on avait bien géré notre stratégie, notre trajectoire, et on avait réussi à se placer devant les deux autres. Donc on était plutôt contents avec notre placement. Juste un peu frustré parce qu'on n'arrivait pas à défendre notre avance jusqu'à la première scoring gate, où quand ça a reparti juste avant, en vitesse pure, on ne tenait pas les deux autres, on s'est fait doubler juste avant la porte où il y avait des points.
Justement, le fait de vous être retrouvé quand même au contact de Malitia et d'Eleven Saur pendant tout l'Indien, ça aide à maintenir le rythme, à maintenir un bon rythme, d'avoir des bateaux, des comparatifs autour de vous. Comment tu vois ça?
Oui, c'est génial, c'est trop bien parce que avant de partir, on ne sait pas comment ça va se passer. Avec ces bateaux qui vont très vite, dès qu'on a les petits soucis techniques, on peut perdre beaucoup de milles. Donc, c'était plutôt une bonne surprise de se retrouver au contact. Et ouais, c'est sûr, ça motive d'avoir les autres bateaux pas loin. Et parfois, même en AIS, même si la balise AIS et le Vantara, ça marchait pas très bien, mais ça motive, ça, surtout sur Biotherm où on était en train d'essayer les choses, changer les réglages, essayer de progresser avec le bateau. C'était top d'avoir cette contact qui est finalement, on était en contact quasiment toute l'étape avec pas toute la flotte, mais même jusqu'à la dernière nuit, on avait Eleven Tower en visio, donc c'était top.
Kevin, vous, quand vous comprenez que votre avance va fondre, comment est l'ambiance à bord? C'est un peu la soupe à la grimace ou vous dites il y a encore, forcément encore de la route, mais l'objectif, j'imagine, c'était surtout de passer la fameuse scoring gate en tête?
Ouais, le premier objectif, c'était ça. Le premier objectif, c'était de concrétiser ce bon début de course en marquant des points. C'était la première chose. Et aussi de rester devant. C'est pas si simple que ça. On l'a vu d'ailleurs sur le dernier Vendée Globe, hein, il y a eu beaucoup de situations identiques, dont Charlie Dalin, où quand on est devant comme ça, on est dans un vent qui est plus adonnant, en train d'effectuer des empannages, pendant que les autres reviennent avec un vent plus refusant, donc au reaching pratiquement, ou alors tout du moins sur un seul bord. Et je pense qu'on s'est concentré à conserver une bonne position. Quitte à perdre des milles à un moment donné, c'est-à-dire quitte à réussir à se repositionner plus sud que les concurrents pour anticiper, non pas garder le plus longtemps possible notre position en tête, mais plutôt anticiper pour se dire comment est-ce qu'on sera bien positionné pour quand ils reviendront
sur nous pour pouvoir continuer à avoir un coup d'avance. C'est ce qu'on a fait, je pense, lors du record des 24 heures. C'est-à-dire qu'on a accepté d'empanner pour perdre des milles sur nos concurrents qui se rapprochaient de nous, pour être plus sud qu'eux, pour avoir un vent quand ils reviendront au contact, pour avoir un vent plus favorable. Et je pense que c'est aussi pour ça, en partie pour ça, qu'on effectue le record des 24 heures. Pour moi, c'était pas du tout un objectif. L'objectif, il était quand même de ne pas trop pousser sur le bateau. Encore une fois, la route était très longue. Samantha en parlait, c'est qu'il y a sur ces bateaux-là, il y a une gestion à long terme. On a essayé de faire ça bien. Hein. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu de soucis techniques, on n'a pas eu de problèmes. On doit être le seul bateau à pas perdre de voile. On a eu très peu de soucis techniques, donc même d'accepter à début de nuit, fin de nuit, d'abattre, d'aller contrôler le bateau avant de pouvoir, on va dire, réattaquer. Donc voilà, la logique était bien évidemment que ça fait jamais plaisir quand on a beaucoup d'avance de voir les autres revenir. Mais tu parlais de soupe à la grimace, ça a jamais été le cas à bord. On est toujours resté concentré sur notre façon de naviguer, d'accepter. J'en avais parlé au briefing à Cape Town. Je pense que dans le sud, il faut accepter il faut savoir vraiment alterner les temps forts et les temps faibles. C'est-à-dire que quand on a vent des fronts, quand l'état de la mer le permet, quand le vent est stable, bah, ne pas hésiter à utiliser le bateau comme on sait le faire à 100% de son potentiel. Et puis par contre, en arrière des fronts, quand la mer n'est pas bonne, quand le vent est irrégulier, quand il y a des grains dans les ciels de traîne, bah là par contre, essayer de naviguer de façon un peu plus conservatrice pour ne pas se retrouver dans des situations désagréables. Et vraiment cette gestion-là, c'était mon but sur cette étape, de bien savoir gérer ça, de bien savoir gérer. Bah, on a de l'avance, on fait attention au bateau, les autres viennent, et bien on se remet en mode régate. Et c'est pas si facile que ça à faire, parce que quand les étapes sont longues, quand il y a de la fatigue, quand c'est un petit peu moins confortable d'aller faire les manœuvres, de pas se retrouver quand il y a les bateaux derrière nous qui naviguent à trois et qui sont dans un vrai rythme, nous de ne pas tomber dans un faux rythme. Et ça, on a su le faire, je pense, très longtemps, et on l'a plutôt bien fait. Quand je dis qu'on a su le faire très longtemps, c'est que à la fin, la situation a été un petit peu différente avec Malaysia. Mais encore une fois, moi, j'ai aucun regret sur la façon dont on a navigué. Encore une fois, la course est très très longue. On a pris le même nombre de points que Malaysia sur cette étape-là. On a un bateau qui est en parfait état, un équipage qui est en bon état. Avec humainement, ça s'est bien passé. Donc je suis très content de la façon dont on a navigué.
Bon, donc c'était une sorte de marquage à l'échelle océanique, quoi.
Oui, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de marquage. Par phase, il y a un peu de marquage. Il y a aussi, comme le disait ouais. Sam, naviguer comme on sait le faire, ne pas pousser le bateau dans ses retranchements en se disant ils nous ont repris 600 000, on veut à tout prix garder une avance en poussant le bateau à 110% de ce qu'on sait faire. Et à chaque fois qu'on est revenu au contact, on a montré qu'on savait rester devant. À chaque fois, on a réussi de temps en temps à reprendre un peu d'avance. Maintenant, la situation météo, et ça, on le subit. Hein, la situation météo, c'est pas, il suffit pas de souhaiter que d'avoir un meilleur vent. Il suffit juste de s'adapter au vent que l'on a. Et à chaque fois que les autres bateaux sont revenus, on a su rester au contact. On a su ne pas trop prendre de risques stratégiques en se disant on va tout tenter. Je sais pas, en tentant une option nord qui fait que les bateaux derrière nous peuvent s'engouffrer dans notre sud, et qu'après, bah, une fois qu'ils sont plus sud que nous, c'est compliqué de rester devant. Donc on a essayé de faire des choix stratégiques à moindre risque pour pouvoir bien se repositionner et anticiper pour la suite, plutôt que de se dire bah là on va jouer notre va-tout pour les trois prochains jours. C'était pas ça l'idée. Encore une fois, c'était de voir un peu plus long terme et de travailler la vitesse, de travailler avec les voiles qu'on avait, de préserver aussi certaines voiles, parce que je sais pas si tout le monde sait, mais on a un nombre de voiles limité sur cette Ocean Race. Et encore une fois, on avait aussi, nous, une voile, on avait même plus que ça, on avait deux voiles, notre J2 et un de notre Genecker Caplage, que l'on avait pris spécialement pour le sud, pour préserver les voiles pour la suite de la régate. Donc la suite nous dira si on a eu raison ou pas. Mais en tout cas, il y a une vision sur cette course-là qui doit être à plus long terme que juste l'étape sur laquelle on navigue. Ça, moi, je l'avais vu sur les précédentes Ocean Race, et c'est quelque chose qui est très important. Si on casse toutes les voiles, que l'on a et qu'on est obligé de les changer, on n'a plus de ce qu'on appelle un bouton, on n'a plus de bouton pour la suite en cas de casse d'une autre voile. Et ça, c'est de la gestion à plus long terme.
Ouais, bien sûr. Sam, tu le disais, il y a une légère frustration pour vous. Vous franchissez donc la scoring gate à la quatrième place, alors que vous avez été longtemps deuxième, hein, sur cette traversée de l'Indien. C'est quoi? C'est un différentiel de vitesse sur la fin? Comment tu l'expliques?
Oui, c'était un différentiel de vitesse. On avait quand même une avance. Donc, je crois qu'on avait passé Cap Nguyen, on était deuxième, et le scoring gate, on était quatre. Donc, on aurait pu faire, et qu'ils avaient placé le scoring gate un peu plus dans l'ouest. Mais là, c'était, oui, sur la vitesse pure. Et à ce moment-là, je crois que c'est Eleventh Hour qui bat le record de 24 heures sur ce run-là. Et nous, comme notre objectif chaque fois, on naviguait dans notre objectif de la route est longue, le bateau est jeune, on veut prendre soin de notre matériel de voile, donc on était le pire plancher, le max qu'on pouvait avec les contraintes et les objectifs qu'on s'est mis pour nous. Donc on pouvait pas aller plus vite que ça, et donc c'est sur vitesse pure, on s'est fait doubler, mais en même temps, dès qu'on passe les scoring gates, je crois qu'il avait l'intérêt, il s'arrête pendant 10 heures pour réparer tout ce qu'ils avaient explosé. Et je pense que en faisant ces vitesses pour nous doubler, ils avaient tout pété. Donc, on n'a pas trop de regrets, parce qu'on naviguait, nous, on a pu continuer la course, et on était très vite à nouveau deuxième. Donc, c'était à ce moment-là, on avait le bateau était encore en très bon état, et puis on avait navigué comme prévu. Donc, frustré, oui, mais plus n'était pas possible à ce moment-là.
Kevin, un petit mot sur ce fameux record, donc record des 24 heures qui a été porté, je crois que la marque est 595 ou 596 000 contre 539, précédent record qui était à propriété d'Alex Thompson. Raconte-nous un peu les conditions de ce record, qu'est-ce que vous aviez comme vent, comme mer, et est-ce que selon toi, il y a encore moyen de passer la barre des 600?
Alors, le vent, on avait, on va dire, entre 20 et peut-être maximum 30 nœuds dans les risées, une mer en avant du front qui était assez favorable, un vent assez stable. Et franchement, pour être honnête, notre but n'était pas du tout de battre le record des 24 heures. Je pense aussi que le record en IMOCA, le record absolu qui est, je crois, à 618, est largement prenable. On aurait même nous, si jamais on n'avait pas été sur une étape aussi longue, et si on avait voulu border un peu plus, tirer un peu plus sur le bateau, franchement, les 600 000 étaient largement faisables, et le record absolu à 618 était, je pense, atteignable. Hein. Ce record-là va tomber avec un IMOCA, c'est à peu près, enfin, avec un IMOCA, ou peut-être un autre bateau, hein, mais en IMOCA, on peut largement atteindre ce record-là, je pense, hein, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre. Donc, maintenant, voilà, c'est vrai que ça permet de voir. Je crois qu'on a eu notre meilleure heure à 27,8 quand même sur une heure. Donc, ça commence pour faire 27,8 sur une heure, et un record des 24 heures comme ça, faut aussi savoir qu'il y a plusieurs manœuvres d'inclus sur le record. Donc, c'est des vitesses. Pour atteindre ces vitesses moyennes-là, il faut, pour faire 27,8 sur une heure, c'est-à-dire qu'il faut être tout le temps au-delà de 30 nœuds pratiquement, si on inclut, je sais pas, un petit planté ou une manœuvre. Mais encore une fois, le but du jeu n'était pas du tout de battre le record. L'étape était longue. J'avais dit à Cape Town que pour moi le but, il était d'arriver à Itajaí, parce que sur ces en termes de gestion de projet, le moindre souci dans le sud, un dématage, un foil, etc., c'est que non seulement l'étape était mise en péril, mais aussi la suite du projet, parce que où est-ce qu'on rapatrie le bateau, comment est-ce qu'on fait pour le ramener à Itajaí? Ça veut dire qu'il y avait de grandes chances que l'étape pour Newport, c'était compliqué. On a vu par exemple que pour Guyot, ils ont cassé très tôt, ils ont pu retourner à Cape Town, ils ont pu convoyer vers Itajaí, ils sont arrivés juste avant nous. Donc les timings en cas de soucis sur ces étapes-là font que c'est très compliqué par la suite. Donc pour moi, l'objectif principal, il était un équipage en pleine forme et un bateau en pleine forme à Itajaí, encore une fois. Voilà, donc ce record-là n'est pas anecdotique, parce que ça fait toujours plaisir de faire de jolis scores sur 24 heures. Et ça prouve aussi que Holcim PRB, c'est un bateau quand même qui a été mis à l'eau quand même récemment, entre guillemets. Hein. Et bien, on arrive aujourd'hui à mettre des IMOCA à l'eau et à les fiabiliser assez rapidement avec des bateaux qui sont performants. Donc ça, c'est quand même un gros point positif pour la classe IMOCA, un gros point positif aussi pour notre team qui est très jeune. Et c'est presque plus une fierté dans ce sens-là que le record en lui-même.
Alors, on rappelle que ce record est de 618 000 et la propriété de Comanche, le maxi VPLP Verdier. Sam, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, je voulais juste dire que, un peu comme Kevin, bah, c'était incroyable. On a eu ces conditions devant le front avec une mer géniale et c'est un de mes super souvenirs de cette étape. C'était avec des autres bateaux très proches. Enchaînait plusieurs jours parce qu'on a eu on avançait à la même vitesse que la dépression. En fait, on restait dans les mêmes conditions pendant les jours et les jours et les jours et enchaînait jour après jour de plus que 500 000 par jour. C'est incroyable et ça reste un de mes super souvenirs de cette étape d'avoir fait ça en IMOCA, comme dit Kevin, un peu assez facilement parce qu'on en étant à l'écoute du bateau, sachant que on était encore dans l'Indien, donc il y avait une grande partie de l'étape qui reste, il fallait pas tout exploser, mais en fait on était loin de là parce que les bateaux ils avançaient facilement, quasiment chaque fois on regardait les chiffres, les vitesses étaient souvent au-dessus de 30, mais facile. Et là c'était vraiment une partie plaisir de cette étape de faire ça et plaisir de voir que les IMOCA sont capables de faire ça et que bon, ça fait partie de ce développement et c'était vraiment chouette. Ouais.
Et vous, à bord de Biotherm, tu sais ce que vous avez fait comme meilleur score en nombre de milles parcourus en 24 heures?
Je m'appelle d'avoir regardé sur la trace sur le moment, mais c'était il y a plus qu'un mois maintenant. Non, il fallait regarder la trace ou regarder, je veux pas de bêtises.
Ouais, il va être autour de 550, un truc comme ça, je pense.
Oui, je pense que c'était autour de ça, oui.
Sam, après, regroupement général, comme on l'a dit, sous la Nouvelle-Zélande. Et là, pendant quasiment toute la traversée du Pacifique, on va avoir quatre bateaux en une dizaine de milles. J'ai regardé la trace, il y a même des moments où vous êtes les quatre en 2000. Raconte-nous un peu cette traversée du Pacifique.
C'était un peu le... Après l'Indien, qui était assez sportif. Sportif, j'ai dit, pour... quand on est au-dessus de 30 nœuds, la vie à bord à un IMOCA n'est pas très juste de vivre est compliqué. Donc pour faire à manger, pour laver les dents, pour essayer de dormir, tout est compliqué. Donc là, ça quand même, ça fait du bien que le vent s'est calmé un petit peu et la mer aussi. On est forcé assez nord parce que la glace est très nord, donc il y avait la limite de glace. Nous on appelait ça le mur, comme dans Game of Thrones, où il y a des White Walkers de l'autre côté, donc on ne pouvait pas à travers trancher. C'était très nord, donc ça nous a poussé vers l'anticlone, les conditions plus calmes, plus portant. Donc là, c'était un peu le recrutement, un peu la glisse. Donc on tire les bords. Donc c'était un peu chacun son tour, selon où on était, nord-sud, empannage ou pas d'empannage, vers la porte de glace chaque fois. On avançait trop vers l'est, on rentrait encore plus dans la molle. Donc c'était, comme disait Kevin, en fait, c'était l'accordion. Celui qui était devant, forcément, était rattrapé. Selon où on était sur les empannages vers la porte de glace ou pas, ça dictait un peu qui était en tête. Je me suis dit, c'est un peu comme quand le safety car est sorti sur un Formule 1. Tout le monde est coincé, que le, et puis, on peut pas avancer plus vite que le safety car et quand on fait les zigzags pour chauffer les pneus. C'était vraiment ça.
C'était l'anticyclone, là, c'est
ouais, mais j'avais l'impression qu'on était en stage d'entraînement pour la forêt, parce qu'on était tous en... Il y avait des moments où on se voyait tous les quatre bateaux. J'étais obligée de dire, mais est-ce qu'on est vraiment dans le Pacifique Sud, plein milieu d'une étape de Ocean Race, ou est-ce qu'on est en stage d'entraînement pour la... Parce que limite, on aurait pu s'appeler à la VHS pour voir combien de voiles qu'il y avait, qui était sur quel voile, et un peu comment on fait sur les stages. On a eu quelques échanges avec certains bateaux, donc c'était sympa. Et assez motivant aussi de pouvoir, même si on avançait trop, on tombait dans la molle, donc on s'est dit, ouais, est-ce que ça sert quelque chose de pousser trop, parce que chaque fois t'es devant, tu te fais doubler, mais c'était une belle petite partie du réat. Et puis en même temps, ça nous a permis de dormir un petit peu plus, un peu mieux se reposer, attaquer quelques bricolages, parce que enfin on a pu sortir la tête, aller sous le pont, réparer les fuites que on pouvait pas réparer parce que quand on était sous l'eau, donc il y avait une belle opportunité avant attaquer le deuxième gros parti avant le Cap Horn de faire un peu de bricolage, et ça fait du bien aussi au bateau.
Ouais, et c'est avant le Cap Horn que les conditions se sont musclées, et c'est à ce moment-là que Malizia et Holcim PRB ont commencé à prendre un petit peu d'avance. Comment tu l'expliques, Sam? C'est dans les conditions très musclées, vous avez levé un peu le pied. Comment on va donner la parole après à Kevin pour avoir sa version, mais de votre côté, comment tu l'expliques?
On n'a pas levé le pied, mais on a fait le mieux qu'on pouvait avec notre bateau, notre matériel et notre savoir à ce moment-là. Pareil, toujours à l'écoute des bateaux, essayer de pas casser beaucoup. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est un peu à ce moment-là où on a fait une énorme plantée. Biotome, c'est un bateau qui a tendance à mettre de nez dans les vagues. On est toujours en train d'apprendre les réglages, tout ce qu'on peut faire pour essayer de lever un peu le nez, y compris des voiles déchirantes. Mais on avait fait une énorme plantée qui, une autre fois, il s'est explosé en deux. Donc, on était obligé de passer sous mule, ce qui est une toute petite voile de caplage. Quand le feu il s'est explosé, on était obligé de passer un peu plus tôt que prévu. On était un peu sous trolé à un moment avec la mule après cette plantée là, mais à part ça, non, mais je crois que Melitia et Oxim, ils ont un meilleur vitesse que nous à ce moment là ils ont très bien navigué, et oui, on pouvait pas résister.
Kevin, comment toi tu expliques ce petit écart que vous creusez en fin de Pacifique, hein? C'est vraiment sur la toute fin du Pacifique que vous avez pris 100 000, puis l'écart a grandi avec Eleven Savour et Biotome.
Ouais, je pense que alors aujourd'hui il y avait deux types de bateaux. Il y avait les plans Verdier et le plan VPLP de Malizia. Aujourd'hui Malizien, Boris l'avait dit, il avait dessiné, construit le concept de ce bateau-là avec VPLP pour ses mers du Sud. Donc je pense que ce bateau-là avait un plus dans les conditions de mer, on va dire, plus solides. Et c'était le cas. Hein. Il y avait une mer qui était quand même assez formée en termes de vent, même s'il y avait rien d'exceptionnel pour ces endroits-là de la planète, ça reste quand même des conditions qui sont engagées. Nous, on a beaucoup travaillé sur le bateau pour essayer de découvrir son potentiel dans ces conditions-là, configuration d'appendices, configuration de voile, configuration de ballast. Et c'est vrai que le Holcim PRB par rapport aux autres plans Verdier a j'ai l'impression un petit plus dans ces conditions-là. Et Malaysia, je pense, un petit plus par rapport à nous. Alors ça, il faudrait savoir exactement comment est-ce qu'ils ont poussé le bateau par rapport à nous, mais c'est vrai qu'on a vu des images de drones qui sont intéressantes. On a vu que les bateaux, il faut quand même être dessus pour pouvoir les faire avancer dans ces conditions-là. Hein. Comme le disait Sam, il y a quand même des moments où on rattrape des vagues qui peuvent faire entre 6 et 7 mètres de temps en temps avec des bateaux qui vont sous l'eau. Donc il faut à la fois faire attention au bateau, il faut aussi faire attention à l'équipage parce qu'on sait que dans ces conditions-là, dans les plantées, etc., la vie à bord devient un petit peu compliquée. Il faut faire attention de pas se blesser. Et c'est vrai qu'il y a Eleven, je pense, qui avait des petits soucis. Il a eu des soucis de safran, il a eu des soucis de grand voile avec une grand voile qui s'était déchirée au point d'amure. Donc c'est compliqué de savoir si Eleven était pénalisé par de la performance pure, c'est-à-dire par des propriétés, on va dire, intrinsèques du bateau ou par les soucis techniques qu'il a subis. Mais voilà, on a réussi avec Malaysia à creuser un petit peu l'écart, avec Malaysia qui avait aussi une petite, comment on va dire, qui est sans doute un petit peu plus performant que nous dans ces conditions-là. C'est-à-dire que dans les conditions où il fallait revenir en glisse, on était un peu plus facile. Dans les conditions où il fallait attaquer dans des conditions de mer un peu formées, bah, lui était un peu plus facile que nous. Maintenant, on voit quand même qu'au global, les performances étaient très proches. Hein. On arrive quand même à être très proche de lui au passage du Cap Horn. Mais ça a été quand même des conditions soutenues. Hein. C'est vrai qu'on en reparle là, en étant chez nous au chaud, on a une tendance à vite oublier. Mais c'était pas des conditions faciles de devoir tenir des vitesses élevées dans une mer formée. Mais ce qui est très positif pour moi, c'est d'avoir appris énormément sur le bateau, en tout cas. Et ça, c'est vraiment un des points que je vais retenir. J'ai encore un débrief performance jeudi avec l'équipage et les analyses de données, et on va encore, je pense, essayer de passer un petit cap pour pouvoir se rappeler de tout ça, noter tout ça pour quand j'y retournerai en solitaire en 2024.
Tu rappelais qu'il faut faire attention à l'équipage et Rosaline Kuiper qui était à bord de Malaysia a eu quand même une commotion cérébrale dans un gros planté juste avant le Cap Horn. Racontez-nous un peu vos passages respectifs du Cap Horn. Sam, je crois que c'était ton quatrième. Il était comment ce quatrième passage de Horn?
Oui, c'était quatrième et c'est vrai, Kevin, il parlait de ces conditions-là juste avant la dernière tempête avant le Cap Horn, et c'est vrai que c'était pas forcément la force du vent, mais la mer était énorme. Et c'est ce moment-là où j'ai gardé des super souvenirs de sur le moment, t'es pas très fier parce que c'est tellement énorme, surtout le lever de jour quand on voit la taille des vagues, c'est incroyable. Mais quand même, c'est incroyable de pouvoir aller naviguer dans ces conditions-là. On ne trouve ça que là, dans la mer du Sud ou dans le Pacifique Sud. Et ça reste une belle souvenir et comme dit Kevin, un énorme apprentissage sur comment naviguer sur ces bateaux dans ces conditions-là. Et la preuve que c'est possible, mais oui, il y a des limites. Et on a décidé, on a choisi, on a empanné quand on a jugé que c'était trop plus gros que ça, c'était plus très sage. Donc après la nuit, l'approche de Cap Horn, on s'est fait piéger un peu par une petite zone d'anticlone derrière cette dalle qui bougeait beaucoup plus vite que les fichiers. On s'est positionné, on était piégé par cette pétale qui était plus grande que prévu, qui était frustrant parce qu'on avait à ce moment-là au moins 100 000 devant Eleven Tower. Donc on a bien balisé la zone de pétale pour eux, donc ils ont fait le tour de nuit. Un peu de frustration à l'approche de Cap Horn, et puis on approche. On a récupéré du vent sud, donc le vent qui vient de l'Antarctique, qui est vraiment vraiment froid, avec des gros grains, c'est hyper instable, donc il y avait 15 nœuds à 35-40 dans les, donc entre 15 nœuds dans les molles et puis 35-40 dans les rails. Donc c'est les conditions un peu difficiles pour choisir la toile pour naviguer, mais on est très bas à mur et on a une approche depuis le nord, donc on a pu longer la côte avant le Cap-Horn. Donc on a, je m'appelle juste lever du jour à voir les montagnes. J'imagine c'est la fin des Andes, les montagnes enneigées, hyper beau dans un ciel avec des énormes grains de neige, les nuages noirs, plein de neige, donc avec beaucoup de vent aussi. Donc on est allongé avec ce spectacle de vue des montagnes, donc la côte incroyable qu'on n'avait pas vu de la terre depuis l'Afrique du Sud, et puis et ces grains puissants noirs, et puis sous le grain c'était la neige avec 35 nœuds et la neige, spectacle incroyable. Et puis Cap-Horn, le passage, on a eu la chance de pouvoir passer proche, j'ai bien vu Cap-Horn la dernière fois en 2020. Je suis passée très loin et j'ai pas vu, donc là ça fait du bien. En plus, en équipage, on profite ensemble. C'était le premier Cap-Horn pour Paul et pour Anto et pour Ronan. Donc on avait trois bisous qui passent le Cap-Horn. On a pu faire nos photos, mais juste vraiment sous le cap en empanne. On avait prévu un peu de fêter après l'empannage, notre passage du Cap-Horn. Et au moment de l'empannage, c'est là où il y a un rideau et il n'y a plus d'infos. Donc c'est là où on perd tous les aériennes. Et puis on n'a plus d'infos vent et on n'avait pas d'aériennes de secours. Pour brancher derrière, donc on avait vraiment que le compas pour donc on a un pilote en mode compas, et dans les grains et les conditions instables c'était pas terrible à ce moment-là. Donc on part direct dans le dépannage, essayer de trouver les solutions pour dépanner les lacs, et se demander s'il fallait pas monter se mettre direct dans un bec pour monter dans le mât, mais on n'était pas sûr c'était une aérienne ou une câble, donc ça a un peu gâché ça a gâché un petit peu la fête le deuxième moitié, mais heureusement c'était des conditions quand même instables mais maniables, donc on a pu continuer la route sans trop de dégâts. On était un peu vitesse un peu réduite, mais on a pu quand même continuer la route et étudier les solutions en route.
Alors, on va revenir sur cette fin d'étape, et je vous conseille au passage de lire les chroniques de Ronan Gladu dans Voiles et Voiliers qui raconte un peu cette fin d'étape. C'est assez sympa à lire. Kevin, toi, je crois que c'était aussi ton quatrième Cap Horn. Raconte-nous un peu ce passage de Cap Horn et après le duel final avec
Manitia. C'était mon troisième passage de Cap Horn parce que il y a une fois en 2014 où on dématte 24 heures avant le passage du Cap Horn et fin de j'ai passé le Cap Horn, mais par le nord, on va dire. On était passé par Beagle Channel, on avait dématé et on était passé par Beagle Channel pour pouvoir rejoindre Ushuaia, effectuer une réparation avec un gréement de fortune pour que notre équipe technique puisse convoyer le bateau jusqu'à Itajaí et qu'on puisse continuer la course. Donc et c'était à bord, c'était le quatrième pour Abby, c'était le premier pour c'était notre premier pour notre reporter embarqué, pour Sam Goodchild c'est le premier également, et pour Tom Laperche également le premier aussi. Le Cap Horn on est passé un petit peu avant Biotère, mais c'est vrai que c'était un peu dans la brume. Sur un reaching à 30 nœuds, donc c'était également très sympa, mais avec beaucoup moins de visibilité. On est passé par le détroit de Lemaire ensuite, avec c'est une zone où il y a beaucoup de courants, où il faut également faire attention. Donc c'était la première fois que je passais là. Et ensuite une remontée de l'Atlantique qui a été, on le sait, à chaque fois on passe le Cap Horn, on parle de délivrance souvent, mais on sait aussi que ce qui nous attend derrière,
et souvent peut être souvent aussi compliqué, voire plus que le Pacifique, et ça a été le cas. Avec, on a enchaîné des dépressions où c'est là où on a pris le plus de vent de toute cette legue. Avec, on a eu des rafales, nous, à plus de 55 nœuds de vent, avec des 50 nœuds établis pendant une heure ou deux. On a même fait pendant quelques heures au reaching du 3 Rissel dans 50 nœuds de vent. Donc ça a été une remontée de l'Atlantique qui a été très soutenue. Avec aussi des vents qui, en fait, les dépressions australes qui tournent autour de l'Antarctique viennent buter contre la cordillère des Andes, et ensuite ça génère des vents qui peuvent être très instables. Et on l'a vu avec Eleven. Nous, on a eu pareil. On est passé à un moment donné de 10 nœuds de vent où on était sous grand voile haut de côte zéro avec une ce qu'on appelle une staysail. Alors, à chaque fois, j'essaie de trouver les mots francophones pour éviter ces termes-là, mais avec le J3, c'est-à-dire notre plus petite voile d'avant à l'intérieur, et on s'est fait coucher dans un grain avec pratiquement 50 nœuds de vent, où on est resté couché quelques temps. Donc encore une fois, c'est-à-dire que on passe le Cap Horn, mais c'est pas fini derrière. C'est-à-dire qu'il y a la remontée qui peut être très compliquée en termes de vent, en termes de gestion du bateau. Le bateau des fois peut être un peu fatigué, l'accastillage, et donc il faut vraiment faire attention de pas tout casser. Et c'est vrai qu'on a eu trois dépressions à s'enchaîner avec beaucoup de vent. Une dernière dépression la dernière nuit dans laquelle on a eu des soucis de pilote automatique, où on a eu deux départs à la battée qui ont fait qu'on a cassé des lattes, et on a malheureusement perdu le contact avec Malaysia. Et pour la première fois sur cette leg, eh bien la fin de course s'est effectuée où, à l'inverse de d'habitude, où à chaque fois le bateau qui prenait de l'avance tapait dans une zone sans vent et tout le monde revenait par derrière, là c'était l'inverse. Et c'est vrai que Malaysia, en plus d'avoir bien navigué, en plus d'avoir un bateau performant dans ces situations, nous on a eu pour la première fois un souci technique électronique qui a fait qu'on a cassé des lattes et qui nous a un peu fait perdre des milles qui n'ont fait que s'accentuer. Et avec un final où Malaysia a eu des milles d'avance. Voilà, c'est vrai que ça a été la seule phase un peu frustrante de cette course où malheureusement on n'a pas pu faire grand chose. Et pourtant, je peux vous assurer qu'on y a mis de l'énergie. Mais voilà, cette fin de course, on a 2-3 soucis électroniques, des conditions sans doute un petit peu favorables à Malaysia sur cette dernière nuit. Même si la fin, on aurait pu revenir parce qu'on sait qu'on était rapide dans la mer plate, même au portant. Mais voilà, c'était encore une fois, les objectifs qu'on s'était donnés à Cape Town, on les a remplis. Un bateau en bon état, un équipage en bon état. Et ça va nous permettre de travailler sereinement pour la suite.
Ouais. Et comme tu le disais, vous avez marqué autant de points que Malaysia sur le total de cette étape. Sam, de votre côté, il y a eu une remontée de l'Atlantique assez épique, hein, avec, je disais, des problèmes au début d'aériens qui ont conduit Paul à monter dans le mât, après un problème de foil. Et ce que raconte bien Ronan Gladu dans sa chronique, avec à chaque fois un routage qui donnait tous les jours 4 jours. Comme si vous, au fur et à mesure que vous rapprochiez du but, vous en éloignez en même temps. Raconte-nous un peu cette fin d'étape.
Ouais, à un moment, on s'est demandé s'il était déjà en train de se déplacer vers le nord. Mais non, et même les problèmes aériens, c'était jamais réglé. Donc, on a fait depuis Cap Horn jusqu'à l'arrivée en mode compa, donc à la mini transat, avec les bouts de laine sur les bastacs et à mettre le doigt mouillé dehors pour savoir quelle force du vent. Et vu les récits, ouais, ce que Kevin vient de raconter, c'est peut-être tant mieux, puisque moi, on n'avait pas peur, parce que nous, on ne voyait pas 50 nœuds affichés, parce qu'il n'y avait rien affiché. Donc, on avait juste le cap et le boat speed. Mais ce qui était pas mal, c'est avec le pilote Madinsek, il y a des surcouches performance, et j'aime bien ce pilote, j'ai le même sur Initiative Car, donc j'ai pu aller bricoler un peu dans son cerveau pour lui, en fait, on lui fait penser qu'il y a du vent, quand même, pour qu'il active des surcouches et que, comme ça, on a une mode vitesse, une mode jeep, donc il y a les modes qui nous aident, parce que sinon on est un peu à la télécommande, à la zapette, à essayer de suivre les variations de vent avec nos démocrates qui prennent des grosses accélérations et les grosses variations de vent apparent. C'est compliqué à la main. Donc, heureusement, il y avait ces surcouches-là qui nous aidaient un petit peu dans la gestion du bateau. Mais quand même, c'est assez stressant dans ces conditions instables avec des grains. La nuit, surtout, avec peu de lune. Parfois, des grains arrivaient sans trop de nuages. Donc, on n'avait pas énorme d'avertissement. Et donc, c'est hyper stressant, surtout quand il faut abattre pour rouler ou... j'ai un problème, mais on ne sait pas combien on peut abattre sans panneau. Voilà. Moi, je suis contente que j'ai fait le mini transat il y a tellement longtemps que j'ai fait quand il n'y avait pas d'infovent au Pays-Bas. Donc, j'ai cette expérience-là qui m'a beaucoup aidé pour les dernières parties, d'avoir pu naviguer avec un pilote sans vent. Donc, il y avait ça, et après.
Back to the
woods. Ouais, après, donc, on a fait quelques vracs assez spectaculaires, mais tout était bien géré, et puis, on avait une super équipe, avec Paul, Anto, Damien, et Ronan, chaque problème qui arrive était, déjà, il y a rien qui nous a fait baisser les bras, tout est toujours possible, il y avait quand même la collision, quand on a eu la collision avec l'OVNI, et on a cassé le foil, on a cassé le bateau, donc il y avait quand même une voie d'eau. On savait pas si on allait pouvoir rétracter le foil, donc ça aurait pu... Donc il y avait juste à ce moment-là, on s'est demandé si on allait vraiment arriver jusqu'à Itajaï, parce que là, c'était un problème qui aurait pu être plus grave, mais heureusement... On a une super équipe de bricolage sur le bateau aussi. Et on a pu colmater, on a rétracté le foil pour pouvoir continuer. Mais oui, on a aussi perdu le moteur des hydrauliques des quilles. Donc, on a fait la dernière partie à pomper la quille à la main. Donc, ça aussi, dans les conditions instables. Donc, tout le monde était sous menace de pas réaliser la quille, parce que celui qui a réalisé la quille, s'il y avait une molle, c'était celui qui était obligé d'aller rentrer pomper à la main pour le remettre après. Donc, physiquement, oui, ça a des petites conséquences aussi d'avoir ces petits soucis. Et puis, forcément, quand on a des petits soucis, même si on arrive à avancer quand même, on avance un petit peu moins vite que prévu, donc forcément un peu moins vite que le routage. Voilà, c'est pour ça aussi que si on n'arrive pas à suivre, rester dans les systèmes météo, donc le dia a changé un petit peu, et donc heureusement on a pu rigoler, et heureusement aussi on était bien préparé bien longtemps en avance, en disant que cette étape aurait pu durer 6 semaines, et on avait dit que on va pas prendre juste le minimum pour si jamais l'étape dure plus longtemps qu'on a les lyophales pour le fin, parce qu'après déjà 5 semaines de lyophales, on est content aussi d'avoir quelques gâteaux et quelques petits chocolats. Donc, on avait pris quand même 6 semaines complètes de nourriture avec le parti plaisir en plus. Donc, on n'était pas aux rations au niveau de la nourriture. Donc, c'était quand même toujours dans le bon humeur avec une bonne ambiance à bord. Et puis, aussi avec cet espoir que... À Cap Horn, quand on a perdu les infos, l'instrument, on savait que le bateau allait être moins performant dans le mode vent. Eleven, il était devant nous. Ouais, c'était un peu, on pensait pas que c'était possible de les rattraper. Et puis, petit à petit, avec tous nos soucis, on n'a même pas vu venir, en fait, qu'on était en train de rattraper Eleven, qui avait aussi la propre galère. Donc, c'était quand même avec tous ces problèmes-là, on a fini toujours en croyant que c'était possible d'avoir cette troisième place et toujours en mode régate malgré tous les problèmes, parce que sur un bord on avait plus de foil, donc c'était pas la même façon de naviguer d'un bord à l'autre. Donc même pour le routage, ça changeait les choses, mais on était en mode régate, en mode d'essayer d'avoir cette troisième place jusqu'à l'arrivée. Donc voilà pour ça qu'il y a un petit frustration aussi, parce que C'était possible, mais on n'a pas réussi.
Ouais, effectivement, hein, vous avez compté quasiment 300 000 de retard sur Eleven Hour et finalement vous terminez juste derrière. Kevin, vous êtes donc premier au classement général après ces trois étapes, 5 points d'avance sur votre premier poursuivant Malizia. Aujourd'hui, vous avez gagné les deux premières étapes, vous prenez 5 points à la Scoring Gate de Tasmanie, là vous faites deuxième, vous êtes maintenant l'équipage à battre. Est-ce que dans la tête ça change quelque chose?
Non, dans la tête ça change rien parce que encore une fois la course on n'a pas fait la moitié des coefficients, on est aussi très peu de bateaux, donc c'est à dire que même en gagnant on va dire trois étapes, je résume ça comme ça parce que pour moi c'est cette leg 3, même si la victoire finale c'était l'arrivée à Itajaï, pour moi c'était deux étapes en une, donc pour moi on gagne trois étapes sur quatre et on fait deuxième à la dernière. Si on regarde au niveau comptable, ça fait très peu de points d'écart. Donc ça aujourd'hui, bien évidemment que c'est positif, bien évidemment que c'est le reflet d'une bonne gestion des trois paramètres qui influent sur la performance sur ces projets-là. Il y a le bateau, l'équipage, bien évidemment, le bateau et l'équipage, mais il y a aussi la gestion de projet. Je pense que c'est les trois paramètres qui influent beaucoup sur la performance sur ce style de course. Pour moi, tout est encore à faire. Donc il va falloir gérer l'équipage, il va falloir gérer le bateau, il va falloir gérer la performance. Il peut se passer encore énormément de choses et j'ai envie de dire qu'il faut partir sur chaque étape avec la même envie. Donc on a vu beaucoup de projets qui arrivaient bien positionnés à Itajaï et où ensuite l'avance pouvait s'effriter. J'ai pas envie que ce soit le cas. J'ai pas envie que ce soit le cas ici. Il va y avoir un gros roulement d'équipage. Au départ d'Itajaï, des gens qui vont revenir à Newport, donc il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer avec des conditions qui vont être très différentes de cette leg 3. On sait que la remontée à Newport, moi je me rappelle d'une arrivée à Newport où on avait fait une très belle étape avec Don Feng et on perd 3 places dans la rivière à l'arrivée à Newport, donc non, il va se passer encore plein de choses sur cette Ocean Race, ça va être encore passionnant. C'est beaucoup de temps passé sur l'eau et ça c'est fantastique. Je sais que quand on est passionné par le fait de faire du bateau, d'aller faire ces courses-là, on passe beaucoup de temps sur l'eau, on apprend beaucoup de choses. Et encore une fois, voilà, rien n'est encore terminé. Il faut aussi continuer de faire progresser le bateau parce que je pense que ça c'est un élément très important. C'est qu'à chaque fois qu'on arrive sur une étape, c'est continuer à travailler sur le bateau, les bateaux sont assez récents, donc il y a encore plein de choses à découvrir en termes de configuration de voile, de configuration d'appendice, et ça c'est quelque chose à laquelle on s'attelle encore aujourd'hui à Itajaï, donc de continuer à découvrir le bateau, et ça c'est quelque chose de passionnant. Donc non, j'ai hâte d'être au départ à Itajaï, mais par contre, ce qui s'est passé avant, on va dire, ne présume de rien de l'avenir, il faut continuer à travailler tout en se faisant plaisir, parce que c'est une très belle course.
Tu peux nous donner la composition de l'équipage pour l'étape Itajaï?
La prochaine leg, il y aura Fabien Delahaye qui sera à bord. Je l'avais déjà annoncé au départ de Cape Town. Il y aura Georgia qui reviendra en tant que onboard reporter. Annemiek Bess également que Sam Davis connaît bien. Et il y aura également Benjamin Schwartz, un figariste qui a effectué un stand-by, j'ai envie de dire malheureux parce que je connais ses records et ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir partir, mais qui était en stand-by avec Spindrift pour la tentative du Jules Verne cet hiver.
Sam, on va finir par toi. J'imagine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le bateau? Est-ce que le foil va pouvoir être réparé pour l'étape 4? Et quelle va être la suite du programme pour toi sur The Ocean Race?
On a emmené un bateau un peu fatigué, mais l'équipe de Biotam, ils étaient bien préparés pour notre arrivée. C'est une équipe qui renforçait avec pas mal de boat builders. Ils étaient très positifs avec un planning très serré, mais très positifs de pouvoir tout réparer pour pouvoir repartir. Après, moi, je suis partie après 2 jours, donc je ne sais pas, il faut mieux demander à Paul ou à l'équipe où ils en sont, mais je suis optimiste pour ça. Il y a une grande partie de l'équipage qui change à ce moment-là, parce que Anto, Damien, moi-même, on a tous nos propres bateaux qui sont en train d'être mis à l'eau. Donc, malheureusement, on n'est pas là pour la prochaine étape. Mais Paul, il a un super équipage qui va faire les quatre. Et pour moi, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais je peux pas parce que j'ai l'initiative CAR qui est à l'eau. Donc, moi, j'ai un programme chargé à partir de maintenant pour The Ocean Race. Donc, je les abandonne, même si j'aurais bien aimé faire une autre étape. Mais je vais aller à Gênes, bien sûr, pour fêter l'arrivée avec tout le monde. Et là, du coup, je vais suivre avec passion la suite de cette course depuis la Terre. Donc, je te suis, Kevin. Ça va être sympa. J'ai hâte de suivre ça.
Merci.
Ouais, ton bateau a été remis à l'eau et tu refais tout le programme IMOCA.
Oui, Initiative K est à l'eau et on va commencer à naviguer la semaine prochaine. J'ai une semaine pour me reposer et la Bermude qui arrive dans pas longtemps. Donc je fais toute la saison IMOCA à partir de du mois de mai avec cette première course à Bermude 1000 Vieda Bermude pardon. 1000 restes et je pense qu'on va bientôt annoncer avec qui je navigue pour cette course.
Bon, on n'aura pas le scoop aujourd'hui.
Je crois pas. Je pense. En fait, je suis un peu paumée parce que vu que je viens d'arriver à Itaja et j'ai passé 2 jours à Itaja et puis j'ai monté dans un avion et puis c'était les vacances de Pâques et j'étais avec mon fils, donc je suis en train de revenir avec les pieds à terre aujourd'hui.
Bon, bah, très bien. Eh ben, merci tous les deux. Bonne reprise avec Initiative Cœur, Sam. Bon retour à Itaja et bonne quatrième étape vers Newport pour toi, Kevin. Et
on continuera
à suivre avec passion cette édition de The Ocean Race. Merci à tous les deux. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 115e épisode de Pause Report. Merci.
Merci Axel. Bye.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tippenshaft envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. À bientôt !